as-tu dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant?
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter.
De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendues quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture. Un divertissement proposé par Hélène Azéra. Boom. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, amis de la chanson, bonsoir. Erwan est un inqualifiable. Et dans l'heure que nous allons passer ensemble, on va jouer à saute-mouton, passer d'un style à l'autre, du rap au ragamuffin, du reggae à la chanson musette. En direct du studio 107 de Radio France, Erwan nous interprète Curling, texte Erwan, musique Nicolas Krasilchik et Camille Ballon, dit Tom Fire, qui l'accompagne au piano. Erwan.
T'épouses la street, la tête dans le win. T'as fait du self-control, ton way of living. Pour assurer toujours le petit non-œil qui cligne. T'es curling, t'es curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit bibi. Toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais tiradi et dandy. T'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balaient la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Tu doubles fil au Ritz, descends grand seigneur. Balance nonchalamment les clés au chasseur. Et lui tapote la joue avec un ton farceur. T'es curling, t'es curling. Sa pince-fesse, sa gratine, mais toi tu coulisses. La vie est une faillite que tu croques à pleines teeth. Petit pas de danse quand tu traverses la piste. T'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balaient la matière grise comme au curling. Sur la corniche pour admirer la mer. Le soleil t'aveugle et c'est pas pour te déplaire. Belle journée pour s'éclipser et faire du curling, du curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balaient la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi, tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Comme au curling. Comme au curling.
Bonjour, je ne vous ai pas défrisé en racontant que vous passiez d'un style à l'autre, que même que vous mélangiez les styles.
Vous auriez eu du mal à me défriser parce qu'il ne me reste plus grand-chose aux cheveux. Mais oui, c'est. D'ailleurs, je viens de faire un clip justement sur ce morceau curling avec des cheveux curling.
Le frisés. Curling, c'est un jeu où on envoie des palets.
Voilà, c'est un jeu qui a été inventé, je crois, au Moyen-Âge en Écosse,
oui.
au XVIe siècle. Je me suis renseigné, parce que j'avais juste pris l'expression comme ça. Je trouvais ça assez drôle de dire curling pour se laisser glisser. Et donc, ça ne m'étonne pas que ce soit les Écossais qui aient inventé ce sport, parce que c'est assez surréaliste comme sport. On lance c'est la pétanque des pays du Nord. Mm-hmm. Voilà.
Avec une dépense physique.
Oui, bah justement là, quand on est allé tourner le clip, on s'est aperçu. Moi, je pensais que c'était comme la pétanque, quoi, qu'on se fatiguait pas. Et en fait, ça demande beaucoup de souplesse parce qu'il faut pratiquement faire le grand écart là quand on lance le palet et on se laisse glisser. Non, c'est un vrai sport.
Alors, vous êtes pas gêné que je parle de votre façon de passer d'un genre à l'autre. C'est quand on écoute l'album. On le remarque tout de suite quand même.
Oui, encore, c'est un de mes albums les plus homogènes. J'ai l'habitude de passer tout le temps de comme ça, du coq à l'âne, parce que, surtout pas, déjà parce que je ne suis pas compositeur. Donc j'écris surtout les chansons et j'ai pas un propre style musical. Et puis ce qui m'intéresse, c'est justement de faire le caméléon et pouvoir aller d'un genre à l'autre, ce que je fais avec mes différents groupes. Mmh. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, un nouveau disque et un nouveau groupe, c'est une aventure comme si on partait en bateau avec des pirates et puis on a un nouvel équipage et puis après on change d'équipage pour le projet d'après. J'aime pas rester dans les...
Vous êtes né dans quel entourage musical ? Qu'est-ce qu'on écoutait chez vous quand vous étiez enfant ? Parce que ça marque, malgré tout, même si on veut s'en démarquer.
Ouais, c'est j'avais pas une grande culture musicale, parce que mes parents écoutaient assez peu de musique. Mmh. Ils avaient quelques disques... Qu'est-ce qu'ils écoutaient? Simon Garfunkel, John Baez, mais j'avais pas... Ils écoutaient surtout du classique et des chants religieux. Mmh. Voilà. Et donc, j'ai
des
découvert la musique grâce à mon...
Des chants religieux de grande musique.
Il y a des très beaux des chants grégoriens, l'appel à la prière, de l'islam, tout ça. Voilà, on écoutait ça chez moi, parfois. Mmh. Et de la musique classique, de l'opéra. Mais c'est grâce à mon grand frère que j'ai découvert, que j'ai pu m'intéresser à la musique, au rock, à la pop, etc. C'est lui qui m'a fait découvrir toutes ces musiques-là.
Donc, vous connaissez très peu Brel, Brassens, Ferré. Vous allez le découvrir vous-même.
Je vais le découvrir beaucoup plus tard. En fait, je suis venu à la musique par le biais de on était, moi, j'appartiens à une génération qui a vu arriver la culture hip-hop, du rap. Mm-hmm. Donc, on a commencé par être danseur, par être tagueur. Et puis, est venue la musique, le reggae, les sound systems, les soirées. Et c'est comme ça que j'ai découvert la musique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire des textes. Et en fait, il y avait l'avènement donc des radios libres à Paris. Mm-hmm. Et il y avait la naissance des sound systems, donc où on achetait des vinyles jamaïcains, des petits 45 tours, et il y avait une partie où le chanteur jamaïcain chantait, il y avait la face B, donc ça s'appelait des dub plates, et sur la face B on pouvait
improviser,
voilà. Et moi qui n'avais aucune formation musical, j'avais tenté de faire des instruments, mais j'avais pas été assidu. Et tout d'un coup, on pouvait faire des chansons comme ça. Il suffisait de. Donc, le mercredi après-midi, on se donnait rendez-vous avec des potes et on allait chanter sur les disques. Et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter en français. Donc, on chantait.
Ça et vous a amené après, au français, tout
ça. Ça a amené au français, exactement. Ouais. Comme ça m'a amené au français.
Et à l'écriture de texte.
À l'écriture de texte. Et plus tard, en découvrant donc, les chanteurs français, donc j'ai commencé par les rappeurs, puis les chanteurs français, et en découvrant les chanteurs français comme Léo Ferré, j'ai découvert la poésie après, qui me passait par... J'avais étudié ça un peu en cours, mais
c'est intéressant, oui, il y a des gens qui jettent des anathèmes, et on s'aperçoit, c'est pas ça, et que justement un genre peut vous amener vers un autre.
En permanence, bien sûr, c'est des vases communicants.
Vous avez commencé à vous produire...
J'ai commencé assez tôt, vers 15 ans, à commencer à faire des petits concerts. J'avais des groupes de reggae, un qui s'appelait Sensi Lion et un autre qui s'appelait Mystic Vibes. Alors, on était très naïfs, on voulait changer le monde, etc. Enfin, ouais. Et donc, avec ça, on a écumé toutes les MJC de banlieue. Mmh. Et voilà, donc on a fait plein de concerts.
Vous ne veniez pas forcément de la banlieue au départ.
Moi, je suis banlieusard. Je suis né à Épinay-sur-Seine et j'ai grandi à Vitry-sur-Seine. Mais j'étais pas, je suis pas un banlieusard comme vous l'entendez, c'est-à-dire.
J'entends rien du tout.
Non, mais c'est parce que banlieusard, je suis plutôt d'un milieu bourgeois, donc j'étais, j'avais un beau pavillon au milieu des cités.
Voilà. Si on écoutait les Palmerets. C'est quoi cette histoire de Palmerets ?
Oh, c'est une histoire de divorce, c'est une histoire assez dure et c'est le seul texte que j'ai pas écrit sur l'album. Enfin, je l'ai écrit en collaboration avec un ami qui s'appelle Alexandre Kaufmann, qui est un ami d'enfance et qui est un écrivain. Et qui est un écrivain voyageur, qui est un reporter, qui a été reporter voilà, dans plein de pays du monde et qui a vécu notamment en Tanzanie. Donc c'est une chanson qui se passe en Tanzanie et je pense qu'elle raconte un petit peu... une séparation là-bas, donc c'est assez imagé, je trouvais le texte assez beau, voilà, sur les...
D'accord, mais vous l'avez appelé en disant « j'aimerais faire une chanson sur le divorce »
Non, pas du tout, comme
c'est... Vous aviez commencé à écrire un texte
non,
et vous lui avez
non,
montré...
Non, c'est qu'à chaque album, depuis que j'avais un groupe avant qui s'appelait Java, à chaque album, il me donnait un texte. Voilà, j'essayais de placer un de ces textes. Donc sur chaque album de Java...
Je me souviens très bien de la couverture de l'album Java.
Le premier ?
Oui.
Ah oui, c'était avec une voisine.
Voilà.
Ouais. Il y avait un beau téléphone.
On écoute les Palmerets.
Suis-je le dernier des soucis ? Le cil d'un songe dans son esprit ? Cinquième roue de la mémoire ? Quelques souvenirs piqués au curare. Je ne suis pas l'ombre d'une ombre, pas plus que l'ombre de sa main, encore moins l'ombre de son chien. Un feu follet pris sous le grain, ou l'écho boiteux d'un refrain. Jusqu'à la cime des palmerets, j'étranglerai les perroquets. Non plus que cette présence aimable, un esclave, un chien, une épave. Laisse au cou docile au chantage, un caniche amoureux de sa cage. Elle crie fort, elle a toujours tort, plus orgueilleuse qu'un matador. Pourquoi cette graine de tyran, cette harpie me manque-t-elle tant? À distance, elle la siamoise conscience. Dois-je la frôler pour lui faire mal ou lui inventer une rivale? Je reviendrai sans arsenic dans le giron des steppes magiques, à la portée de ses colères pour y rester 3000 années. À la cime des palmerets, j'étranglerai les perroquets qui se souviennent des mots blessants, de nos disputes, de nos coups de sang. Jusqu'à la cime des palmerets, j'étranglerai les perroquets qui se souviennent des mots blessants. Sous le tropique des cancers, où tombe averse la lumière, avec lance, lampe et litchi, je deviendrai son gardien de nuit. L'appel urgence ébranle ses rêves, laissant sève de la sève, et sans même la tirer du sommeil, je replongerai dans son escarcelle.
Très beau texte.
Merci.
Ouais. Il y a cette
dans certaines chansons de Ferré, il y a un côté très précipité. Il y a une chanson qui s'appelle « L'homme », par exemple, où ça, ça va, où la Marseillaise, il y a une espèce de rythme.
C'est l'homme, c'est ça ?
C'est l'homme, ouais, j'aime, oui. J'aime bien ce genre. Il y a un côté échevelé, ouais. Dans le, échevelé, ouais, dans, c'est, le ouais. Dans le rythme. Ouais. Puis en même temps, bon, il y a une vraie écriture.
Ouais, bah là j'ai été aidé. Oui. C'est de la triche.
Non, c'est le choix des bons collaborateurs.
Ah, bien sûr, je suis content de bien sûr.
Vous l'avez écrit à
non,
deux,
c'est surtout
non,
lui. Moi, je corrige un peu parce qu'il a il a pas l'habitude lui d'écrire des chansons, donc j'essaie de caler, je découpe un petit peu, mais voilà, donc c'est bien, c'est une écriture très littéraire.
C'est un peu votre originalité de passer du hip-hop à la chanson, parce que il y a des fois on fait un peu comme si il y avait une muraille. Bah,
je pense que on fait de la chanson. Que les gens qui font du rap aujourd'hui, même le rap le plus hardcore et le plus dur, c'est de la chanson. C'est la définition de la chanson, c'est des mots sur de la musique.
Et qui crée une émotion.
Ouais. Mm-hmm. Donc pour moi, il n'y a pas de différence, en fait.
Quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que, justement, on pouvait se servir des ambiances modernes pour véhiculer de l'émotion brute?
Tout de suite, pas. Enfin, j'ai commencé comme ça, parce que, comme je vous l'expliquais, j'avais pas du tout de culture de chansons françaises, donc j'y suis venu après. Ce qui est mon handicap et en même temps ma chance, c'est que j'ai aucune formation musicale et que j'avais pas de grande culture musicale. Donc je m'inventais, et puis surtout je prenais une certaine liberté quand je fais des morceaux, par exemple avec Camille là qui m'accompagne, qui lui a fait le conservatoire, qui est un grand musicien. On va faire un morceau et puis il va dire ça ressemble à un tel, on peut pas le faire. Moi j'ai dit non, tant mieux. C'est parce que j'ai pas. Donc j'essaie. C'est pour ça que je travaille toujours avec des. J'essaie toujours de travailler avec des bons musiciens pour justement qu'on s'apporte chacun. Parce que parfois les musiciens sont trop musiciens, quoi. Ils sont trop. Enfin, ça veut rien dire. Mais si, ça veut
ça
dire
veut
qu'ils.
Ça veut tout à fait dire ce que ça veut dire.
Ouais, oui. Ils sont. Du coup, ça complexe parce qu'on a trop de références.
La chose aussi qui m'intéresse, c'est dans vos inspirations, quand justement certaines personnes sont un peu bloquées sur la banlieue, vous allez passer à Paris tout d'un coup. Et c'est les mêmes ambiances, en fait. C'est le même Paris populaire que...
Paris, pour moi, c'est justement, en tant que banlieusard, Paris, pour moi, ça a été l'ouverture sur tout, parce que je suis allé au lycée à Paris, donc je prenais le RER. Et ce qui caractérise la banlieue, c'est qu'on s'y ennuie énormément. Mmh. Et Paris, pour moi, ça a été, à l'adolescence, mon terrain de jeu. Voilà, je vivais là-bas. Et donc, j'ai une vision de Paris qui a été pour moi magnifique, parce que c'était une ville que je connaissais pas très bien et que j'ai découvert, justement, c'était la ville où je pouvais m'évader et partir plusieurs jours, aller dormir et découvrir les catacombes, tout ça, les petites ceintures, tous les endroits un peu, voilà.
Enfin, il y a des grands de la chanson moderne qui ont chanté le bonheur, les fêtes dans leur cité. Je pense un peu à Zebda, qui a écrit il y a une chanson magnifique qui décrit une fête dans une cité. On peut aussi trouver une culture et une culture intéressante.
Ah, mais bien sûr, je dis pas le contraire du tout. Je dis juste que moi je chante.
Oui, c'était votre terrain de jeu.
Voilà, moi j'ai eu la chance d'aller sur Paris. Ouais. Et voilà, donc c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mm-hmm. Mais je parle de. J'ai pas de fixation là-dessus. D'ailleurs, j'ai un rapport avec Paris qui est un peu de. Comme je le crie dans les chansons, il y a deux chansons qui parlent de Paris. C'est un rapport un peu amour, haine. C'est une ville que j'aime énormément et en même temps qui m'exaspère par plein de côtés.
On écoute Paris en bouteille. C'était quoi l'histoire derrière la chanson, qui a amené la chanson?
Ça part toujours d'un mot, une chanson. Là, c'est parti de l'expression, tout simplement, Paris en bouteille. Et puis après, je décline.
Mmh. Si Paris était en bouteille, je la boirais jusqu'à la lie. Et ivre mort, j'irais pisser tout en haut de la tour Eiffel pour arroser ces touristes qui ont fait de ma ville une maquerelle. Une michetonneuse dont le périph' lui sert de couche de rimmel. Si Paris était en bouteille, elle me servirait de tesson. Je la jetterai de la tour Eiffel pour que des éclats par millions viennent déchirer ce triste ciel qui pèse comme un sac de plomb sur toutes mes nuits sans sommeil, attirer le diable par le fond. Si Paris était en bouteille, je refermerai vite le bouchon. Et pour qu'enfin elle se réveille, je lui secouerai le siphon. Alors toute choquée et à garde, je lui passerai le baillon. Et je la prendrai à la hussarde pour lui rappeler qui c'est le patron. Si Paris était en bouteille, mais Paris est dans un flacon de chloroforme et son oseille bien planquée dans ses panilons. Ah, qu'elle est triste, elle sent la cire, la rombière de salon. Y'a plus que les cons qui la désirent, c'est même plus une fille à chanson. Si Paris était en bouteille, je la poserais sur la scène pour qu'elle s'exile au soleil et s'aère enfin les poumons. Qu'elle se brise sur le corail et qu'elle replonge dans les bas-fonds. Alors la mer aura de la gouaille, la poésie sera dans le plancton.
Voilà, petite chanson parigote. Alors, vous savez, on fait des petits sauts dans le passé. Mm-hmm. Et j'avais envie de vous passer une chanteuse. Je ne crois pas qu'elle soit née à Paris, mais en tout cas, elle est vraiment parigote. Mm-hmm. C'est Maggie Fred, alors qu'on va dire une petite chanteuse de Musette. C'était la grande copine de Fréhel, avec un destin affreux. Elle est la compagne d'un accordéoniste galliardin qui est revenu mutilé de la guerre de 14, mais qui joue de l'accordéon, et il est d'une jalousie à mort, et ça va terminer qu'il va la tuer, mettre le feu à la guinguette dans laquelle ils habitaient. Elle a pas la voix grave de la plupart des chanteuses de Musette. Elle a une voix quand même un petit peu plus aiguë. Et j'aime beaucoup sa naïveté. Alors, Margot Danerty-Nast, 1930, « Je n'ai jamais su » par Maggie Fred.
Dans la vie, je connais des femmes qui se donnent corps et âme. Moi, j'ai jamais pu faire ça. Et dans le fond, je ne saurais pas. Je suis pas née dans les dentelles, comme je connais des demoiselles. J'ai grandi dans un recoin, là-bas tout au fond de Saint-Ouen. Je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu, ce n'était pas pour ma pomme. Les jolis joujoux et les petits mots doux, j'ai vécu en bête de somme. J'ai le cœur usé, plus dur qu'un pavé, et j'ai trimé faut voir comme. Sans être ingénue, avoir de la vertu, je n'ai jamais su. À 15 ans j'étais novice et j'ignorais tout du vice. Ne connaissant pas le mal, je n'avais qu'un béguin le bal. Un jour j'ai perdu la tête en dansant dans un musette. Et le lendemain sur le trottoir, je suis tombée sans le vouloir. Je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu faire de l'amour un négoce. Suivant mon destin, du soir au matin, partout je roulais ma bosse. Tout comme un pauvre chien traînant mon chagrin, je n'ai jamais compris la noce. Comme la môme Lulu, je n'ai jamais pu, je n'ai jamais su. Ça sera comme ça toute la vie, et quand sonnera l'heure bénie, le jour où la mort viendra m'accrocher de ses grands bras, saluant ma délivrance et la fin de ma souffrance. Sans regret je partirai, mais avant je redirai, je n'ai jamais su, je n'ai jamais pu savoir dire des mensonges. J'ai connu souvent la faim, les tourments et le désespoir qui ronge. Mais avant de sauter là-bas de l'autre côté, au grand paradis des songes, si je crève dans la rue, je dirais j'ai pas pu, je n'ai jamais su.
Il la connaissait déjà.
Je l'avais déjà entendu, oui. Mais qu'est-ce qui devait être sur une compilation.
Qu'est-ce qui vous frappe le plus, ça, sa voix, la voix.
La voix, la voix. Et c'est vrai, ce que vous disiez, c'est que c'est vrai qu'elle elle chante moins fort que les chanteuses de cette époque. Donc elle a une voix assez posée. Et puis surtout, c'est un accent. Voilà, c'est marrant, c'est un accent qui est complètement disparu. Et puis c'est marrant de voir comme ils enregistraient à l'époque, donc la voix est très devant parce qu'ils enregistraient tout en direct, et c'est un son super.
C'est une inspiration pour vous. Vous passez au-delà du côté que, bah oui, ça a 60 ans et que forcément au bout de 60 ans il y a des choses qui font sourire
Non, non, bah nous c'est quelque chose qu'on a beaucoup utilisé quand j'avais le groupe Java. En fait, ça a commencé comme ça, c'est-à-dire que on a fait toute une recherche, justement, on a découvert à l'époque des chansons comme ça, des 78 tours, et avec Fixie, donc avec qui j'avais fait le groupe de Java, qui mélangeait le rap avec toute la culture de l'accordéon, du musette, et on a fait finalement exactement ce qu'ont fait les Américains avec leur culture, les Noirs américains avec le rap, en allant piller dans des vieux disques de jazz. Et nous, on s'est dit, bah, pourquoi on le fait pas dans notre culture? Et c'est comme ça que j'ai découvert toutes ces musiques-là, comme ça que j'ai découvert Fréhel et toutes les chanteuses réalistes, tous les chanteurs.
C'est pas facile,
comme
parce que vraiment, Fréhel, ça part du cœur, et puis c'est tout. Il n'y a pas de... Il faut prendre son cœur, se l'arracher et le montrer aux gens.
Ouais, elle a un côté punk. Punk.
Oui, ça finasse pas.
Ouais, non.
Ouais. Alors peut-être vous pourriez lui répondre à la chère Maggie Fréhel en nous chantant, par exemple, en direct du studio 107, une petite chanson à vous qui s'appelle Berbère.
Eh ben, tout de suite. Vous voulez que je vous explique ou non?
Ah bah oui.
Oui. Alors la chanson Berbère est partie du mot chle.
Oui.
Le mot chleha, qui est donc les berbères.
Tribu berbère marocaine.
Exactement. Et en fait, je voulais faire une chanson d'amour sur une personne qui est chleha. Et en fait, je me suis aperçu, moi, avec. On m'appelait souvent le boche ou le chle quand j'étais en vacances sous le soleil. Et en fait, le mot chle est à la même origine parce qu'il se trouve que quand les Français sont battus contre les Marocains. Contre les Allemands, pour avoir le Maroc, les Allemands s'étaient alliés avec ces tribus berbères. Et c'est pour ça qu'on les a rappelés les Chleux.
D'accord.
Voilà, donc je trouvais ça drôle.
Et ça vous a donné un thème de chanson?
Non, parce que ça, c'est venu après. C'était sur le... En fait, c'est aussi... Moi, j'ai des origines bretonnes. Et quand les musiciens kabyles sont venus en France... Ils ont découvert la musique traditionnelle. Ils ont tout de suite dit que les Bretons étaient les berbères de France.
Puisque la musique bretonne est pentatonique.
Voilà.
Ben allez,
ah ben j'y vais,
par ceux-là.
T'es du Maroc, je suis d'Armorique, ça fout le souk, mais pour toi j'aurai l'Amérique. Je suis Konyaman, je suis dans le hammam. Quand tu me mords la côte d'Armand, je tombe à pic. Je te pousse à tu bigouden, je suis Habibi, tu me chouchènes, t'es moi un brique. Mes yeux de braise roulent sur tes fesses, tire les rênes et pique un phare. Tu me rabats, je suis un koufar, à mettre à l'aise, je tape sur les braises. On se regarde comme des andouilles, on se irmate, on chouffe la chouille. On chante, on se beurre jusqu'à pas d'heure, tu mets le voile, je tiens le bar. Je plonge dans la mer et ressort tout enlacé comme des petits beurres salés. T'es ma berbère, Zouina, je suis ton berbère, ton chleu. Je te kiffe, oh je te kiffe. Pour toi je déplacerai à l'Orient les montagnes du Rif. T'es ma berbère, Zouina, je suis ton berbère, ton chleu. Je te kiffe, oh je te kiffe. Pour toi je déplacerai à l'Orient les montagnes du Rif. Zouina, ton chleu. J'en le varac, tu me samalec, je te carnaque, tu désertique. Je suis seul en rage, bah la chamade, j'ai les grina quand tu badines sur la bagade. Je suis dans ta gine comme une sardine, mais skina, je médite dans la médina. Y'a pas d'arrêt dans ta galette, y'en a dans tes salamalek. Tu me traites de plouc, on scalpe le bouc, nardine, mouk, c'est la tempête. On se prise de bec, ou zazat et mourir à Perosguirec. Mais tout retombe comme une crêpe quand on se roule sous la couette et qu'on s'envole pour le Pérou. Mais tout retombe comme une crêpe quand on s'enroule sous la couette et qu'on décolle de Kourou. T'es ma berbère, Zouina, je suis ton berbère, ton chleu. Je te kiffe, oh je te kiffe. Pour toi je déplacerai à l'Orient les montagnes du Rif. T'es ma berbère, Zouina, je suis ton berbère, ton chleu. Je te kiffe, oh je te kiffe. Toi, je déplacerai à l'Orient les montagnes du Rif.
Bien aller très vite avec les mots. Fais pas peur des fois que le
que les gens comprennent rien. Si bah si, mais c'est des, je sais pas, c'est d'énergie aussi. Après je pense que ce qui est marrant aussi, c'est de venir à la chanson par la musique. Mm-hmm. Puis après de redécouvrir des trucs dans le texte. Moi j'aime bien ça quand j'écoute des chansons, de peut-être pas tout comprendre tout de suite, mais que être pris par la vibration générale, et puis après revenir décortiquer.
Éplucher,
oui. Et quelle était votre question, excusez-moi ?
Les chansons préférées des, oh, bah, des gens
des, je sais pas. Bah, la chanson qu'on va jouer là tout à l'heure à Pic, c'est une chanson qui a bien marché. Voilà, après c'est un mélange. Je pense qu'il n'y a pas... Ce qui est bien, c'est que j'ai... Ce qui est bien moins bien, c'est que j'ai jamais fait de grands tubes. Donc j'ai écrit quand même pas mal de chansons, donc il y a plein de gens qui aiment des choses différentes.
La définition de Boris Vian.
Oui, c'est creux.
C'est creux.
Ouais, mais c'est bien.
Ah, il sait tout. Il sait tout. Je vais faire l'émission à ma place.
Non, mais il y a quand même l'espoir quand on fait des chansons de un jour de faire un hold-up, faire la chanson, le tube, justement le creux.
Oui, que ça. Y ait plus... Mais c'est plusieurs choses qui se retrouvent, quoi.
Moi, je pense qu'il ne faut pas le chercher, en tout fait. Cas. Si ça arrive, tant mieux. Si ça n'arrive pas, tant pis. Quoi.
Enfin, puis bon, si c'est diffusé 10 fois par jour sur une radio, ça aide un peu.
Ah, bah oui, ça, c'est sûr.
Vous analysez les.
Alors là, je suis avec mon collègue qui analyse énormément, justement, qui vient de lire un livre sur la façon dont la fabrique à tubes, comment l'école suédoise a réussi, tu peux peut-être en parler, sinon,
mais oui.
Justement, c'est des, comme ils font aux États-Unis, maintenant ils sont 15 pour écrire une chanson, comment on fabrique des
Monsieur
tubes.
Monsieur le musicien.
Oui.
Bonjour.
Alors tu vas nous expliquer comment on fait un tube.
Non, c'est pas. Enfin, un tube, c'est pas. Il y a plein de manières de le faire. Après, moi, je n'ai pas la solution non plus parce que j'ai fait quelques chansons avec Arwan et avec d'autres gens, mais j'ai jamais connu l'énorme tube. Après, maintenant, il y a des. Justement,
on en parlait.
Il y a des recettes où maintenant on fait bosser. C'est l'espèce d'usine où il y a une vingtaine de compositeurs qui sont en même temps à chercher justement ce qu'on appelle le hook, qui est le crochet, en fait. Le crochet qui va accrocher les gens, en fait.
Qu'on retrouve dans les clips. Il y a le visual hook dans le clip, l'image qui va revenir plusieurs fois. J'ai un ami musicien, cher Camille, qui m'avait dit que en fait, je lui avais passé les chansons de Vincent Scotto, qui a été le plus grand fabricant de tubes des années 30. Et il me dit, en fait, dans chacune de ces chansons, il y a la réminiscence d'une autre chanson d'avant. Et souvent, dans un tube, il va y avoir une petite citation
qui permet d'accrocher.
Ouais.
D'ailleurs, il y a un bouquin de Boris Vian qui s'appelle « En avant la zizique », où il parle justement de ça. Il dit « Oui, les gens critiquent mes chansons comme quoi je me suis inspiré de telle chanson d'il y a 20 ans, mais ils ne savent pas que telle chanson d'il y a 20 ans s'est déjà inspirée de telle chanson il y a 40 ans, etc. Mm-hmm. » Donc, c'est le mimétisme. On a envie de retrouver des choses. Et puis après, il n'y a que 12 notes. Et souvent, les chansons sont...
Mais là, c'est quand même le mystère. Brassens disait, si les gens ils sortent de la salle et qu'ils n'ont pas les chansons dans la tête, j'ai pas réussi. Je vous propose d'écouter Colon. Alors, c'est quoi cette histoire de Colon? C'est autour Colon, colonialisme, mais aussi le colon, les intestins.
Voilà, c'est une histoire de cancer.
Mmh. C'est un tube.
C'est un tube.
Voilà. Exactement.
La boucle est bouclée.
Exactement. Bon, et tout est de vous. C'est votre colon.
Alors, c'est mon colon qui a été exposé. Et la musique est de Camille Ballon et de Nicolas Krasilcik aussi.
Marcher en crabe à l'image de son pays. Depuis qu'il t'a imposé son régime alimentaire, la censure serre la ceinture, c'est le grand colon qu'on sert. Depuis qu'on sert ton colon, depuis qu'il t'a soumis, l'alcoolonie, tous ces ennuis, ton colon nuit toute la nuit. L'alcoolonie, tous ces ennuis, ton colon nuit toute la nuit. Les faux cols qu'on serre la nuit, les sauvages que l'on conquiert à coups de colosses qu'on plie. Ton colon est en concert, oui, il parcourt du pays, il est devenu missionnaire, c'est le foie qu'il a suivi. Il n'y a donc pas de quoi s'en faire, ton colon va pas si mal, il a gagné du galon, ton cancer est général. L'alcoolonie, tous ses ennuis, ton colon nuit toute la nuit. L'alcoolonie, tous ses ennuis. Thank you.
aussi une petite merveille dans ce genre de petites chansons là, bien fignolées.
Ah bah c'est grâce à mon compositeur Tom Fayer, alias Camille Ballon, ou inversement. Et Nicolas Krachelsik aussi, qui est le deuxième compositeur du disque. Oui, là, on est parti de la musique. Souvent, moi aussi, on parle de la musique et puis j'écris le texte après.
Ça vient des lyriques, là. C'est plus des paroles.
Là, ouais.
Et physiquement, vous bougez, vous dansez?
Ah, toujours, ouais. Moi, sur scène, j'adore ça. Je fais ce métier-là. Oui, j'ai fait de la musique. J'ai continué dans ce métier, si on peut parler d'un métier, parce que justement, j'adore faire de la scène. J'en fais énormément. Et avec tous les projets, j'ai un autre groupe qui s'appelle Soviet Suprême, avec lequel on tourne énormément, où il y a beaucoup d'énergie.
Soviet Suprême?
Oui, c'est un mélange de musique des Balkans. On est deux personnages. Donc, il y a Sylvester Stallone et John Lennon.
Soviet Suprême, c'est l'URSS, oui, c'est pas ça. Les Balkans.
C'est un projet qui est né dans les soirées balkaniques.
Oui.
Et quand, de mélange de musique d'aujourd'hui, de hip-hop et de musique traditionnelle de l'Est. Mm-hmm. Et quand on a réfléchi au nom qu'on allait prendre pour le groupe, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elles ont en commun, tous ces pays, qui ont-ils en commun? Et c'est des anciennes républiques soviétiques. Donc on s'est dit, on va s'appeler Soviet Suprême. Puis ça plaisait beaucoup aussi à mon collègue, donc Thomas Fetterman, qui lui vient d'une famille communiste, où on est communiste de père en fils chez lui, moi venant d'une banlieue rouge aussi. Et alors on a inventé des personnages, donc lui il est John Lennon, et moi je suis Sylvester Stallone, et ces deux généraux cryogénisés qui, 25 ans après la chute du mur, arrivent pour reprendre le pouvoir. Et en fait, c'est une relecture c'est imaginer ce que serait la musique du monde aujourd'hui si l'URSS avait gagné la guerre froide. Parce que quand on parle de musique du monde, on parle de world music, et c'est toujours vu par le prisme un peu anglo-saxon. Donc là, c'est intéressant de voir la musique internationale.
Pas moi.
Oui, pas vous, mais en général.
Non, mais en URSS, je ne vais pas faire l'apologie du goulag. Merci. Mais il y a eu des rencontres invraisemblables entre Arméniens, Azéris.
Ah oui, non, mais bien sûr.
Non, mais il y avait les musiques d'Asie centrale quand même qui existaient.
Elles n'ont pas eu le même retentissement que les musiques américaines.
On s'en fout. Ça, c'est comme ça. Non, mais oui, il n'y a pas de retentissement. Mais vous avez un musicien comme Huzer Hadjibekov en Azerbaïdjan qui a fait le premier opéra d'un pays musulman. Il est encore très très connu, alors que peut-être que l'auteur qui a écrit Yes We Have No Banana c'est un peu passé,
c'est
quand
vrai.
Même
vous avez raison.
Non, j'ai pas raison, mais non, je trouve qu'on s'intéresse pas assez à la musique du RSS.
Mais on ne s'intéresse pas du tout à la Russie, même. On a toujours les clichés, la Russie, c'est Poutine, tout ça. Et
oui, enfin, vous avez Khatchakourian, qui est un immense musicien arménien. Tout le monde connaît sa danse du sabre, etc., etc. Mais il est arménien soviétique. Et donc, ça veut dire qu'il a travaillé avec des musiciens qui venaient d'autres provinces, d'autres régions, d'autres pays, du RSS. Ah, quand même. Puis la World Music, Paris 1930. Le tango, il est parti de Paris. La musique cubaine, elle est partie de Paris.
Moi je vous parle d'après la chute du mur.
Ah oui, après la chute du mur.
Voilà, on parle justement de... C'est pour contrebalancer, en fait. De façon humoristique. En fait, c'est aussi... Ouais. On le fait par le biais des réseaux sociaux. C'est de prendre tous les clichés du marketing et de les rendre communistes. Faire l'inverse de... Ouais. Voilà. Donc, c'est un projet ironique.
Plutôt, quand même.
Balkanique et soviétique.
Ouais.
Voilà, vous pouvez le voir sur notre page Facebook.
Donc, la page Soviet Suprême. À l'assaut, voilà. Alors, c'est quoi l'histoire?
À l'assaut, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plutôt des allitérations.
Oui, vous aimez beaucoup ça. Hein.
J'aime bien ça, oui. Et puis là, j'ai essayé d'écrire à l'assaut, à l'insu, si ça parle de piraterie. Voilà, et puis j'ai essayé de copier un peu. en beaucoup moins bien, bien sûr, les allitérations à la Verlaine. Un peu. Mm-hmm.
On écoute à la parole.
J'écris les paroles et la musique est de Nicolas Krachilcik.
À l'assaut, à l'insu, à l'assaut, à l'insu, à l'assaut des hautes sphères, à l'insu de ses rombières, à l'assaut des hautes sphères, il s'en est fallu d'un fil que je finisse en enfer. À l'insu de ses rombières, j'ai dû soudoyer la ville pour les plaisirs de sa chair. À l'assaut des hautes sphères, il s'en est fallu d'un fil que je finisse en enfer sur le grill. À l'insu de ses rombières, j'ai dû soudoyer la ville pour les plaisirs de sa chair, fut-il. À l'assaut, à l'insu, à l'assaut, à l'insu, à l'assaut des jambes en l'air, à l'insu des réverbères. À l'assaut des jambes en l'air, il m'en a fallu du style pour avoir ces chimères. À l'insu des réverbères, dans les rues qui se faufilent comme des lèvres en souricière. À l'assaut des jambes en l'air, il m'en a fallu du style pour avoir ces chimères en idylle. À l'insu des réverbères, dans les rues qui se faufilent comme des lèvres en souricière. Gracile, à l'assaut. À l'insu. À l'assaut. À l'insu. À l'assaut des insulaires, à l'insu des pères corsaires, à l'assaut des insulaires, j'ai fendu le cœur des îles, à l'insu des pères corsaires, j'ai convoyé l'insuline, à l'assaut des insulaires, j'ai fendu le cœur des îles, la fine fleur des roturières, fébrile, à l'insu des pères corsaires, j'ai convoyé l'insuline dans le sang des héritières, Cyprine, à l'assaut. À l'assaut, à l'assaut, à l'assaut des Amazones, à l'insu de la milice, à l'assaut des Amazones, j'ai fendu le cœur des villes, j'ai louvoyé dans la zone, à l'insu de la milice, j'ai gagné le corps des femmes, inoculant dans l'iris. À l'assaut des Amazones, j'ai fendu le cœur des villes, je le voyais dans la zone d'exil. À l'insu de la milice, j'ai gagné le corps des femmes, inoculant dans l'iris la flamme.
Vous écoutez quoi comme musique, cher ami Erwan? Vous écoutez de la musique bretonne?
J'en ai écouté, oui. Là, on a joué il n'y a pas si longtemps que ça dans un festival avec un groupe qui s'appelle Les Ramoneurs de Menhir.
Ah, ils sont bien.
Ah, ils sont super.
Ils sont formidables.
D'anciens de Berruyer Noir. Donc oui, j'ai écouté de la musique bretonne, j'écoute des musiques, j'ai pas de façon méthodique d'écouter de la musique. J'aime bien me perdre dans les bibliothèques, sur Internet et puis dans les magasins de disques.
Qu'est-ce que vous cherchez quand vous arrivez sur Internet et vous commencez à chercher de la musique? Qu'est-ce que vous cherchez?
Le problème, c'est que j'aime pas trop la façon dont on a accès à la musique via Internet, parce que finalement on a accès à tout, mais c'est le cheminement. D'ailleurs, on n'a pas accès à tout.
Si
on a pas
abonnement,
mais j'aime bien le rapport physique avec la musique. Donc c'est vrai que j'achète encore des CD.
Avoir le disque en main.
Voilà. Et de moins en moins comme tout le monde, parce qu'il y a
Mais quand vous cherchez sur les musiques des Balkans,
vous allez sur YouTube
et puis vous commencez à voir, puis vous repérez.
Oui, et puis sinon c'est des discussions aussi avec des amis qui me conseillent.
Aussi.
Moi par exemple sur la musique des Balkans, j'étais complètement inculte et c'est Thomas, donc chanteur de la Caravane, avec qui je fais le groupe Soviet Suprême, qui m'a fait découvrir cette musique. Voilà, et puis grâce à lui, on est allé en Serbie justement cet été. On a découvert toutes les kafanas, les musiques traditionnelles, tout ça. Et donc je me suis intéressé à cette musique par ce billet-là.
Et c'est la musique serbe, elle est assez dominante dans tous les Balkans. Ça énerve un peu les
autres.
Gens, les autres. Mais...
c'est vrai que c'est les racines. Il y a un côté, c'est les derniers pays d'Europe où il y a une vraie musique populaire
que par exemple en France, on a complètement, alors c'est l'histoire de centralisation, etc., mais qu'on a, on a tué les instruments, les langages, les, et qu'on retrouve plus ça dans les Balkans.
Je trouve que des fois les trad, ils aiment tellement ça qu'ils n'ont pas envie de partager. Alors, je ne vais pas dire que c'est de leur faute, hein, parce qu'on sait de qui c'est la, c'est la faute, mais de temps en temps, il y a des espèces de sectes musicales qui se créent, et ça va éviter que la musique circule.
Oui, c'est le contraire. Oui, oui, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est de cultiver sa langue, son langage, et puis de toujours essayer de le mettre dans, de le mélanger avec la musique actuelle. Enfin, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui en France comme André Mainvielle, ils font ça bien, ils font de la recherche poétique et en même temps sur les instruments, sur le fait d'être local, quoi.
Ce que je trouve tragique, et c'est une chose générale, c'est qu'on ne réussisse pas à prendre toutes les influences culturelles qu'on peut avoir, comme ça a été fait avec le Musette ou les Italiens et les Auvergnats se sont rassemblés, puis ensuite on fait venir les Roms, on fait venir les Juifs, etc. On n'arrive pas à créer, à composer une musique qui mélangerait les diverses influences, et que là on part tout de suite
en France.
Oui, et on part sur l'imitation.
On est peut-être un peu malade en France de notre intellectualisme, quoi. C'est que il y a un rapport, il y a pas de. C'est, en même temps, c'est un pays d'enfants gâtés, parce que sinon, c'est vrai, à Paris, on a toutes les musiques du monde qui viennent pour jouer, etc. Donc, les gens ont accès, ils regardent ça avec une sorte de snobisme, quoi. Ils ne vivent pas la musique.
Tu veux intervenir?
Je vous en prie.
Monsieur, parce que justement, récemment, je trouve que dans le hip-hop, il y a beaucoup d'influences qui viennent d'Afrique.
Ah oui.
Et des pays arabes et tout ça qui se mélangent à une musique française hip-hop qui n'est pas forcément une copie
du rap américain. C'est ce qui a fait le renouveau du rap français. Ouais. Vraiment des gens comme
moi, MHD, j'ai des amis américains qui sont fous du R&B français.
Ouais.
Ils adorent ça parce qu'ils disent c'est une autre patte, c'est quelque chose d'autre. Puis dans la danse, alors ça, on a bien vu la danse hip-hop française. Les influences elles remontent très 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 vite, ce qui fait qu'on a une des meilleures écoles de danse hip-hop en France, même de danse.
Mais pour en revenir sur le rap, c'est vrai que l'avenir du rap en France, finalement, les choses les plus intéressantes qui sont sorties, c'est quand justement le rap français se tourne moins vers les États-Unis et plus vers l'Afrique, où ils ont apporté les rites de couper, décaler, tout ça.
J'aime quand ils racontent leurs affaires, quand ils racontent leurs histoires, parce que c'est pas moi qui vais les raconter à leur place. Et là, bon, il n'y a pas que ça, mais c'est là où je suis le plus intéressé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, cher Erwan?
On peut continuer.
Vous revendiquez en fait de la tradition et de la nouveauté en même temps, quoi.
Bah, je pense qu'on n'est rien si on n'a pas je veux dire un cliché, mais des racines et des ailes, voilà. C'est pas, voilà. Mais je ne suis pas obsédé par ça non plus, mais j'essaye toujours, en tout cas, d'avoir un terreau, quelque chose dans lequel de cultiver ça, de pouvoir puiser là-dedans, et pour essayer de faire la musique de mon époque.
Vous nous offrez une création.
Oui.
Une chanson qui n'est pas sur l'album.
Non, elle est sur un ancien album qui s'appelait Radio Cortex. Et elle s'appelle À Pic.
Ben vous pourriez peut-être.
Bah oui, tout
vous n'allez pas la chanter de ce fauteuil quand même.
Kika kietka. Narisu poista poja. Kika kietka. Je te prends à bras le corps, de part en part, de port en port, ad vitam aeternam, à fond la caisse, à la partie adverse, à l'envers, à mourir, à tes marques,
a plus soif. Je te prends à part, à point, à l'avant, à l'arrière, ailleurs, à rayure, à fleur, à la dure, à l'ancienne, à la chandelle et à la tienne, à la revoyure, à la one again, à l'encolure et à l'antenne, à l'abordage, à l'ouverture, à la sauvage, à l'air pur, à la traîne, à l'usure, à l'étage, à la scène, je te prends à la nantaise, à pile ou face, à la française, à l'avenir, je te prends à l'envie, à l'essence, à la vie, à l'œil et à partie, je te prends à tes amours, à tes souhaits, à posteriori, je te prends à l'insu, à la coule, à la fraîche, à cul, à vélo, à volo, à pied, à main nue, à corps perdu, je te prends à pleine bouche, à bâton rompu, à la louche, à la cuillère, à coupe, à la mouche, à fâchesse, mais faut que tu aies un pic. Sans chaud, à sans faire, péter la panse, à la pêche, à la lèche, à la criée, à la mer, à l'acheter, à chaud, à froid, à la levée, à l'anglaise, à faune, à la loyale, à la fourbe, à la sauvette et à fond de cale, à l'étroit, à la lettre, à pudeur, à tue-tête, à l'aube, à cran, à fond les manettes, à l'insu, à la coule, à la fraîche, à cul, à vélo, à volo, à pied, à main nue, à corps perdu, à la louche, à la cuir, à coupe, à la mouche, à fâchesse, mon femme, à trèfle, à carreau, à cœur, à poids, ailleurs, à poids, à rayure, à fleur, à la dure, à l'aventure, à la tienne, à la voyure, à la one again, à l'encolure, à l'antenne, à l'abordage, à l'ouverture, à la sauvage, à pure, à la traite, à l'usure, à l'étage, à scène, à l'unité, tous à fond, à Dieu, à tout galer, à bout de souffle, je te prends.
L'album d'Erwan Kurling est disponible chez Wagram Musique. Il sera le 3-06-17 au festival Cirque et Fanfare à Dôle, le 7-10-17 au festival Banc Public à Saint-Brieuc, le 13-10-17 au festival de Marne-Orly, le 24-11-17 au carré Sam Boulogne sur Seine, le 7-12-17 au Nomade Café à Marseille, le 8-12-17 au Jam Montpellier, le 9-12-17 au Cargo de Nuit à Arles et le 17-12-17 chez Narcisse en Val d'Ajol et le 20-01-18 au Théâtre de l'Éclat à Pont-Audemer. Vous pouvez en savoir plus sur ses tournées sur sa page Facebook R1R.WAN. Vous pouvez écouter, réécouter, télécharger cette émission sur le site de France Culture. C'était Chanson Boom, une émission d'Hélène Azéra, réalisée par Viviane Noël, avec la collaboration de Claire Poinsignon. Prise de son, Bruno Mourlan, Selim Reribi. Bonne nuit à l'écoute de France Culture.